Alors aujourd'hui, je vous propose de débuter une série de prédications sur la première lettre de Paul aux Corinthiens. Alors, je suis conscient que proposer à une église d'étudier la première lettre aux Corinthiens peut générer un peu d'anxiété. En effet, si vous voulez tout savoir sur ce qui peut arriver de pire à une église, lisez 1 Corinthiens. Si vous voulez vous trouver de bonnes raisons de fuir la vie d'église pour ne pas en subir les soubresauts, lisez 1 Corinthiens. Si vous voulez vous décourager de travailler à la fondation et à la croissance de l'Église, lisez 1 Corinthiens. Et nous le verrons, la première épître de Paul aux Corinthiens nous met face à la consternation et parfois à la colère d'un apôtre découvrant l'inconséquence entre la foi professée et la vie menée par les chrétiens de cette ville de Corinthe. Et en de nombreux passages, nous assistons à de véritables remontrances. N'empêche, il a paru bon au Saint-Esprit que cette lettre soit conservée et figure dans le canon des Écritures pour notre édification. Et il est vrai qu'en tant que contre-exemple sous bien des aspects de ce qui devrait être, les faits qui sont exposés donne lieu à toute une série d'enseignements pratiques très concrets des principes qui doivent régir l'Église. Et c'est donc à ce titre que je vous propose d'en faire le tour et sans esquiver les remises en question inévitables qu'engendre sa lecture. Et nous verrons que sur bien des points, le vécu de ces gens n'est pas si loin du nôtre, que de nombreux parallèles peuvent être faits entre le contexte de leur époque et le nôtre. Dans ce parcours, je m'appuierai très largement sur l'excellent commentaire de Robert Somerville aux éditions Edifac. L'église de Corinthe occupe une place toute particulière dans la carrière de l'apôtre Paul. C'est au sujet de cette église, dont il a été le fondateur, on pense de manière assez certaine, en l'an 51, c'est au sujet de cette église qu'il a reçu cette vision que nous lisons dans le livre des Actes. « N'aie pas peur, lui dit le Seigneur, parle et ne te tais pas, je suis avec toi, personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. » Et cette vision sonne vraiment comme un encouragement pour Paul à persévérer dans l'évangélisation de cette ville et à s'y investir. Et de fait, son séjour durera au total environ 2 ans, beaucoup plus que dans toutes les autres villes qu'il avait évangélisées jusque-là. Cette église va même devenir la communauté la plus nombreuse de sa carrière. Un petit point de géographie, Corinthe est située sur un isthme, donc cette étroite bande de terre entre la mer Adriatique et la mer Adriatique et la mer Égée. Et à ce titre, elle possède 2 ports, un sur chaque mer. Et la langue de terre qui relie la presqu'île du Péloponnèse au continent est si étroite, elle fait environ un peu moins de 6 km, qu'il était même avantageux pour les bateaux de petit tonnage de décharger dans un port, de transporter la marchandise par des moyens terrestres jusqu'à l'autre port pour éviter de contourner toute cette presqu'île, surtout en hiver où les tempêtes rendaient la navigation périlleuse. La ville de Corinthe avait été entièrement rasée 2 siècles plus tôt, avant que l'apôtre Paul ne la fonde, suite à une défaite contre Rome. La cité n'avait commencé d'être rebâtie que depuis une centaine d'années, quand Paul y arrive en l'an 51. C'est donc une ville jeune, mais déjà très prospère, un véritable carrefour commercial entre l'Orient et l'Occident. En termes de démographie, au sein de l'Empire romain, on l'estime même comme venant juste après Rome et Alexandrie, peut-être même Antioche. Il est impossible de donner un chiffre exact, mais c'est probablement en centaines de milliers d'habitants que se dénombre sa population. Elle est remarquablement cosmopolite, avec bien sûr une majorité de Grecs et de Romains, mais aussi des Égyptiens et des Orientaux de nombreuses nations, parmi lesquelles nombre de Juifs. Elle a été décrite comme la moins grecque des cités grecques et la moins romaine des colonies romaines. Premier point commun avec notre époque, le développement commercial a favorisé l'individualisme, la primauté de l'individu sur le collectif. L'appartenance à la cité passait au second plan par rapport aux ambitions et à l'enrichissement personnel. La classe dirigeante constituait une aristocratie de l'argent composée de marchands, de banquiers, d'armateurs, protégés par les autorités à cause des richesses qu'ils apportaient à la ville. Dans ce contexte, on estime aussi qu'un tiers de la population était constituée d'esclaves, vivant dans des conditions très diverses, parfois très dures, mais bien souvent comme artisans, employés de maison, comptables, intendants ou pédagogues. La diversité des religions à Corinthe est à l'image de sa population, foisonnante et bigarrée. Telle divinité d'une religion trouvait son alter ego dans une autre, moyennant un simple changement de nom. L'important ne résidait pas dans la doctrine et l'enseignement, mais dans le respect des traditions liées à tel ou tel culte. Et dans ce contexte, les chrétiens étaient impopulaires, car ils refusaient de se joindre aux autres habitants de la cité lors des cérémonies et des fêtes. Un autre point de tension très fort résidait entre les chrétiens et l'autorité romaine au niveau du culte de l'empereur. En effet, si la liberté de religion était la règle, était de mise, chacun devait au minimum confesser que César est seigneur, ce que bien sûr les chrétiens refusaient de confesser pour confesser, eux, que Christ est seigneur. Et ce n'est pas sans rappeler la tension grandissante que nous connaissons autour des thèmes de la laïcité et de la prééminence des valeurs de la République. Dans une moindre mesure, mais on est sur quelque chose qui y ressemble. Les chrétiens de Corinthe étaient conscients qu'en se tournant vers Jésus-Christ, ils devaient se détourner des idoles. Mais ils avaient du mal à se libérer de la mentalité ambiante, des idées reçues et des valeurs qui avaient cours, dont ils ne voyaient pas toujours le rapport avec l'idolâtrie. Un peu à l'image des Israélites qui ont quitté l'Égypte en quelques jours seulement, mais à qui il a fallu 40 ans dans le désert pour que l'Égypte quitte leur cœur, leurs pensées, leur mentalité. Les chrétiens étaient exposés quotidiennement et dès leur enfance à un profond relâchement moral, reposant principalement sur la liberté des mœurs et l'existence d'une prostitution universellement répandue et s'exerçant à tous les étages de la société. Le culte des divinités de l'amour et de la fécondité, comme Aphrodite, favorisait les débordements sexuels, même dans les lieux de culte. L'apôtre Paul est à Éphèse lorsqu'il écrit cette lettre. Éphèse, on le voit ici, ça se situe de l'autre côté de la mer Égée par rapport à Corinthe. Et donc c'est au cours de son troisième voyage missionnaire qu'il écrit cette lettre aux Corinthiens. On n'en connaît pas la date très précise, d'autant qu'il semble qu'elle ait été écrite en plusieurs étapes et sur la durée, si on en juge par la diversité des sujets traités et l'absence de transition entre les sujets. Mais on l'estime à l'an 55 ou 56, donc 2 à 3 ans après avoir quitté Corinthe. La première lettre aux Corinthiens est en fait la deuxième. En effet, c'est Paul lui-même qui nous le dit au chapitre 5, cette lettre que nous avons à notre disposition fait suite à une autre lettre qu'il leur avait déjà envoyée, qui ne nous est pas parvenue, une lettre qui mettait le doigt sur le laisser-aller des chrétiens de Corinthe, mais dont il n'aurait pas tellement tenu compte, selon les retours qu'il en avait, comme on le verra très bientôt. C'est ce qui justifie le ton musclé qu'il emploie à plusieurs reprises au fil de ses enseignements et exhortations. La deuxième partie de la lettre semble être une réponse à une lettre envoyée par les Corinthiens eux-mêmes, lui posant des questions sur plusieurs sujets concrets. C'est ce que nous verrons à partir du chapitre 7. Mais pour l'heure, je vous invite à lire l'introduction de Paul dans cette lettre aux Corinthiens. Et donc, ce sont les tout premiers versets, les trois premiers versets. Paul, qui a été appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosthène, salue l'Église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ, et qui ont été appelés à faire partie du peuple saint, ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur comme le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Dans cette introduction de salutation, Paul rappelle dès les premiers mots l'origine de son ministère, une révélation de Jésus-Christ lui-même, au même titre que les 12 apôtres, témoins de sa résurrection. C'est cet appel du Christ ressuscité lui-même, en acte 9, qui fait de lui un apôtre à part entière, un ministère qui sera confirmé plus tard par les autres apôtres, reconnu par les autres apôtres et par l'Église de Jérusalem, tel que cela nous est décrit en acte 15. Le frère Sosthène, on ne sait pas grand-chose de lui. Les actes mentionnent bien un Sosthène, dans chef de la synagogue de Corinthe, un juif donc, mais aucun texte ne nous rapporte sa conversion. Qui qu'il soit, un dénommé Sosthène se trouve donc près de Paul à Éphèse. Peut-être est-il même son secrétaire. Et de toute évidence, les Corinthiens le connaissent, puisque Paul l'associe à ses salutations. Nous ne pouvons rien dire de plus sur ce frère Sosthène, fausse d'information. Mais grâce à cette salutation, nous savons que cette lettre s'adresse bien à l'église de Corinthe, église qu'il a fondée, comme nous l'avons dit, quelques années plus tôt. Le terme « ecclésia » que Paul emploie ici, que nous traduisons par « église », peut désigner en grec n'importe quelle assemblée. Mais étymologiquement, « ecclésia » associe le mot « ek », qui signifie « hors de », et un verbe, le verbe « kalein », qui signifie « appeler, convoquer ». Et ça prend une certaine importance au regard de l'utilisation du verbe « appeler », que Paul emploie par deux fois dans son introduction, pour lui-même et pour les croyants de Corinthe, que vous voyez, ainsi que vous le voyez ici souligné sur cette diapo, sans oublier la mention de l'appel que chacun peut lancer au Seigneur, l'appel ou l'invocation, hein, selon d'autres traductions. L'Église tout entière est appelée, convoquée hors d'eux, c'est-à-dire à se singulariser par rapport à l'ambiance générale, au monde environnant. Toute personne qui entre dans l'Église doit pouvoir constater qu'il y a ici quelque chose de différent, de particulier, et peut-être même propre à interpeller personnellement. Même un habitué des mouvements associatifs, puisque l'association est le statut de notre légal que nous avons auprès des autorités, même un habitué des mouvements associatifs doit constater une différence avec ce qui caractérise le monde des associations. Alors, vu de l'extérieur, et des autorités en particulier, l'Église rassemble ceux qui partagent une même croyance. Mais pour nous, ce n'est pas que cela, et ce n'est même pas l'essentiel. Paul le dit ici, nous sommes appelés par Jésus-Christ à faire partie du peuple saint. Voilà, je ne l'ai pas souligné, ceci, mais à faire partie du peuple saint, ce qui montre que tout ne vient pas de nous, mais essentiellement de Jésus-Christ qui bâtit lui-même son Église. L'évangile, c'est un appel que Dieu adresse aux humains et nous ne faisons que répondre à son appel. Mais il est clair que l'initiative vient de Dieu. C'est lui qui a choisi de se donner un peuple dans la ville de Corinthe. C'est lui qui a choisi de se donner un peuple dans la ville de Clermont-Ferrand. Ce peuple est l'Église de Dieu et non une création humaine. Elle n'a pas sa source dans la volonté de quelques hommes de se réunir, de former une association religieuse, mais dans la volonté de Dieu qui leur a adressé son appel, appel à croire en Jésus-Christ, mais appel aussi à former un peuple qui lui appartienne. On a lu un verset de l'Apocalypse tout à l'heure qui m'a beaucoup marqué parce que je savais de quoi on allait parler, et on a lu un verset qui parlait du peuple, hein, que le Seigneur réunirait autour de lui dans le ciel, et qui existe déjà, qui se forme déjà aujourd'hui, une Église qui serve à manifester sa grâce et participe à son projet de salut des hommes jusqu'à son retour. Paul parle de l'Église de Dieu établie à Corinthe, et non d'une portion de l'Église, non d'une subdivision d'un ensemble beaucoup plus vaste. Et ceci est l'occasion de rappeler le statut de l'Église locale. Contrairement à ce qu'on entend trop souvent, l'Église locale n'est pas limitée à une partie de l'Église universelle. Numériquement, oui, c'est vrai, mais Paul ne pense pas l'Église en termes numériques, mais en termes organiques. Il ne conçoit pas l'Église universelle comme la totalité des églises locales, mais chaque communauté, si petite soit-elle, représente, là où elle est, la communauté globale, l'Église. Et le sens de cette expression ne signifie pas, tel qu'elle est soulignée ici, l'Église de Dieu qui est établie à Corinthe, ne signifie pas la congrégation corinthienne à côté des autres congrégations, mais la congrégation, l'Église, entre parenthèses, j'ajoute universelle, telle qu'elle se manifeste à Corinthe. Nous sommes ici, l'Église de Dieu, telle qu'elle se manifeste dans ce quartier de Clermont-Ferrand. Nous sommes ici au 106 de l'avenue Édouard Michelin, l'Église universelle dans son expression locale. Et ceci, cette idée a des répercussions très, ce principe a des répercussions très, très concrètes. Premièrement, la toute-puissance de Christ est à la disposition de chaque assemblée locale. Ça ne dépend pas de sa taille. Tout ce dont peut disposer une Église en termes de la toute-puissance de Christ est à sa disposition, qu'elle soit petite ou grande. Et peut-être l'exemple le plus parlant, c'est celui de l'ambassade. Hein, si vous êtes français et que vous êtes dans un autre pays, vous allez à l'ambassade. Et là, l'ambassade, qui n'est qu'une toute petite entité dans le pays dans lequel vous êtes, l'ambassade tient à votre disposition tout ce dont peut disposer un citoyen français qui n'est pas dans son pays. Et c'est un peu cette idée-là. La congrégation locale dispose de tout ce que Dieu met à la disposition de l'Église universelle. Deuxième répercussion, chaque assemblée locale fonctionne dans sa communauté comme l'Église universelle fonctionne dans le monde entier. Et troisièmement, la congrégation locale n'est pas un groupe isolé, mais elle est solidairement liée à l'ensemble de l'Église. Et chose tout à fait particulière dans cette épître aux Corinthiens, Paul élargit la liste des destinataires, et ce qui fait écho aussi à ce qu'on vient de dire, à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur comme le nôtre, ce que vous lisez ici. C'est le seul cas où les salutations de l'apôtre sont étendues à tous les chrétiens. Paul cherche probablement à rappeler aux Corinthiens qu'ils appartiennent à un peuple saint qui dépasse largement les limites de leur communauté locale. Il veut les aider à prendre conscience de l'universalité de l'Église et à ne pas s'imaginer qu'ils peuvent vivre indépendamment de ce que vivent les autres Églises, indépendamment des enseignements des apôtres, lui compris. Nous verrons dans quelques temps que cette prise de conscience n'était pas superflue au sein d'une Église où chacun avait tendance à se mettre en avant en s'opposant aux autres, au lieu de reconnaître la commune appartenance au Christ. Puisque nous en sommes là, une petite parenthèse sur l'usage des minuscules et des majuscules. Quand écrire « Église » avec une minuscule ou quand l'écrire avec une majuscule? Certains différencient ainsi de l'Église universelle de l'Église locale. Je dirais que ça va un peu à l'encontre de ce que nous venons de dire. La conception de Paul au sujet de l'Église les met au même niveau de statut. Et reprenant la définition du Larousse, « Église avec une minuscule concerne le bâtiment ». C'est ce que le Larousse nous propose. Et tout le reste, c'est-à-dire l'Église, telle qu'elle est mentionnée dans le Nouveau Testament, et à chaque fois qu'il est question d'Église dans le Nouveau Testament, il s'agit de cela, qu'elle soit locale ou qu'elle soit universelle, reçoit, dans la convention proposée par le Larousse, reçoit une majuscule en français. Je dis en français parce que ce n'est qu'une convention. J'ai cru comprendre que du temps de l'apôtre Paul, le grec ne différenciait pas majuscule et minuscule. Tout s'écrivait, du temps de l'apôtre Paul en grec, en majuscule. Et dans le Nouveau Testament, à chaque fois que le mot grec, que le mot église apparaît, c'est exclusivement pour parler de l'assemblée des croyants, qu'elle soit locale ou universelle. C'est seulement le contexte qui nous permet de déterminer à qui on s'adresse, s'il s'agit de l'une ou de l'autre, de qui on parle. Ajoutez à cela que l'idée d'église-bâtiment est totalement étrangère aux chrétiens du 1er siècle. Aujourd'hui, les gens sont surpris si, en les invitant dans une église, cette invitation les conduit dans un groupe ou une communauté de maisons. Ils s'attendent à rentrer dans un bâtiment qui ressemble à une église, un bâtiment collectif, dédié à un culte. Mais les chrétiens du 1er siècle, eux, auraient été surpris si on les avait invités dans un bâtiment dédié au culte chrétien. Et ils auraient été encore plus surpris qu'on appelle ce bâtiment « église ». Et donc la convention que nous propose le Larousse et que je trouve assez répandu de nos jours, en particulier au sein de notre fédération, qui est vraiment conventionnel, c'est pas un enseignement biblique, mais c'est de manière conventionnelle en français en tout cas, elle vise à situer un petit peu où se situe la ligne de niveau, le bâtiment est terrestre et l'institution, qu'elle soit locale ou universelle et céleste, instituée par Jésus-Christ, appelé par Dieu à faire partie du peuple saint, et c'est donc à ce titre que la convention permet de lui mettre une majuscule. Un dernier mot peut-être sur une différenciation qu'on peut entendre également, église visible et église invisible. Alors l'idée qui justifie cette distinction est que Dieu seul connaît son église dans sa globalité jusque dans ses moindres recoins. Et ceci est vrai, parce que Dieu seul connaît le cœur de chacun. Très personnellement, je ne suis pas emballé par cette par cette formulation, même si de grands théologiens l'utilisent, hein, et que ça a un sens quelque part, mais je trouve que la formulation en elle-même, visible, invisible, décrit assez mal la réalité et surtout altère l'obligation de visibilité de l'Église. Et, alors, il est vrai que s'il existe avec certitude tout un ensemble de croyants qui, pour toutes sortes de raisons, sont privés, voire se privent regrettablement de fréquenter une assemblée chrétienne, et s'il est tout aussi vrai que nos assemblées accueillent des personnes qui restent étrangères au peuple de Dieu, l'Église que Dieu a appelée a vocation, au contraire, à être très visible. Et c'est ce que je constate dans le Nouveau Testament, par exemple, dans la bouche de Jésus, avec la lampe qu'on place en un lieu où elle pourrait éclairer tous ceux qui entrent. Je cite cette parole de Jésus. « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Dans la bouche de Paul également, aux Philippiens, une parole qui est aussi le mot d'ordre des flambeaux, « Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Et encore une fois, si je comprends le sens qu'on veut mettre derrière l'appellation « Église invisible », je préfère quand même insister sur le fait que nous sommes appelés à être un témoignage visible de l'amour de Dieu pour tous les hommes, et pour reprendre les paroles de Jésus, qu'ils voient le bien que nous faisons et qu'ils en attribuent la gloire à notre Père céleste. Mais encore faut-il que ce que nous faisons soit bien, propre à glorifier notre Père céleste. Et c'est le sens de l'appel à faire partie du peuple saint. L'original et certaines traductions, comme la traduction seconde, sont plus directes. C'est appelé à être saint, non pas seulement quand nous sommes en Église, mais à tous les niveaux de notre vie et jusque dans nos pensées, au plus profond de nous-mêmes. Voilà un programme ambitieux et de longue haleine. Il ne s'agit pas que de l'affaire d'un instant. Alors oui, certes, nous avons été sanctifiés en un instant, le jour où nous avons remis notre salut entre les mains de notre Sauveur Jésus-Christ. Et oui, c'est vrai, dès cet instant, Dieu le Père nous a vus saints à l'image de son propre Fils. Mais maintenant, nous appartenons à Dieu, maintenant nous sommes unis à Jésus-Christ, maintenant nous sommes membres de son Église. Nous ne pouvons plus vivre selon les critères de ce qui est bien ou mal établi par un monde qui ne fait pas cas des commandements de Dieu. Nous l'avons dit, il était difficile pour les Corinthiens, ils avaient du mal à se départir de la mentalité idolâtre de leur société, quand bien même ils avaient fait profession de foi en Jésus-Christ, parce qu'elle avait bercé toute leur enfance, forgé leurs habitudes, établi ses propres critères du bien et du mal. Aujourd'hui, le monde n'est plus le même, mais il imprègne tout autant nos valeurs, nos critères de choix, nos idéaux. Bien souvent, nous découvrons que progressivement, en avançant dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle avec le Seigneur, à quel point ces critères sont influencés par la mentalité ambiante. Vivre en disciple de Jésus-Christ, c'est difficile aujourd'hui. On ne va pas se mentir là-dessus. Mais choisir, c'est renoncer. Un pasteur et théologien réformé, André Dumas, a écrit quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Celui qui se remet, et un jeu de mots avec le verbe mettre, hein, celui qui se remet à Jésus-Christ doit se démettre de ses anciennes habitudes de vie et de pensée pour se soumettre à son Seigneur. Je l'ai exprimé ici sous forme d'implication, hein, se remettre à Jésus-Christ, qui, c'est une affaire instantanée, a des implications qui vont se... Je ne trouve pas le mot. Décliner tout au long de sa vie, tout au long de notre vie, se démettre de ses anciennes habitudes de vie et de pensée pour se soumettre à notre Seigneur. La sanctification, c'est l'œuvre de toute une vie, mais c'est aussi et surtout l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Elle est la conséquence logique et cohérente de la purification de nos péchés dans notre union avec Jésus-Christ et non la cause. Nous ne sommes pas saints parce que nous marchons dans la sainteté, mais nous marchons dans la sainteté parce que Dieu nous a rendus saints dans notre union avec son Fils Jésus-Christ. On le voit dans ces toutes premières lignes, Paul a posé trois choses essentielles. La purification de nos péchés dans notre union à Jésus-Christ, notre appartenance au peuple saint, l'Église universelle, dans son expression locale, à Corinthe en l'occurrence, et ceci par appel, par vocation pour toute une vie, à tous ceux qui s'en remettent à Jésus-Christ où qu'ils se trouvent. Mais avant cela, et pour que les Corinthiens prennent bien au sérieux son message, et peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas fait grand cas du précédent, il se présente lui-même, comme également appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ce sont les tout premiers mots. Nous allons terminer cette première étape, ce premier petit tour de l'introduction de cet épître aux Corinthiens par le verset 3, « Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. » Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous vivons, quelque difficile que soit le discernement et la vie dans le monde, quelles que soient nos luttes, nos craintes, que soit même notre indignité naturelle à faire partie du peuple de Dieu, c'est quand même la grâce et la paix accordées par Dieu, de manière gratuite, par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ, qui peuvent rassurer nos cœurs. Il nous est dit ici implicitement qu'elles ne dépendent pas de nous, que nous ne sommes pas tenus, encore moins capables de les produire par nous-mêmes, mais nous pourrons être rassurés, confortés, encouragés lorsque nous constaterons les changements et lorsque en nous-mêmes, les changements qu'ils produisent en nous, et plus encore lorsque ces changements témoigneront de manière visible de l'extérieur ce que Dieu fait à l'intérieur. Amen.